les autres, prenez soin du Big Brum Beaver. On se reparle demain. Marceau s'en vient. Bonne soirée.
Ta bière de micro, tu l'aimes locale? Ben, c'est comme ta radio. Des animateurs qui se retrouvent sur les mêmes terrains de soccer que toi pis tes kids, qui vont au même dépanneur, qui vont voir les mêmes shows pis qui restent poignés dans le même trafic que toi. Boulevard 102.1 Québec, c'est chez nous.
Boulevard 102.1.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, un excellent 60 minutes dans le merveilleux monde de l'automobile avec le chroniqueur automobile Samuel Tremblay-Michaud. Salut!
Hello, hello!
Comment ça va?
Hey, ça va merveilleusement bien.
T'as-tu commencé tes podcasts avec Pierre Michaud, là?
Oui!
Oui, bon.
Je suis assez content de lancer officiellement le podcast RPM.
Puis le boss est pas trop raide.
Non, pas trop raide. D'ailleurs, on a fait le premier épisode avec lui, puis ça a été le fun de pouvoir le voir en tant que boss, justement, là, tu sais, comme nous compter un peu l'ascension du personnage Pierre Michaud dans le domaine automobile, puis à quel point l'énergie a été mise autour de l'entreprise sur garder notre authenticité. Là. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur l'opinion qui est dit chez RPM, le combat avec les constructeurs automobiles, tous ces éléments-là. Fait que ça a été un bonheur de podcast avec Pierre qui a été extrêmement éloquent et très pertinent dans ses propos. Là. Mais ouais, c'est mon nouveau petit bébé, ça, le podcast RPM. Je suis très content d'animer ça.
C'est très cool. T'as toujours plein de beaux défis, puis tu sais les relier, tu sais les relever, Sam. C'est le fun de jaser avec toi une fois de temps en temps, c'est sur smart. Les ondes de Boulevard 102.1 aussi.
Très content.
Vous posez-vous la question en gars là, quand vous êtes chez RPM avec les filles qui sont là, bien entendu. Ça va être quoi la mobilité en 2050? Est-ce qu'il va y avoir encore autant d'automobiles dans le parc automobile ou on va tout être dans des autobus ou des tramways?
Tous les jours. On parle de ça tous les jours à cette heure-là, tu sais. Puis je me sens des fois chanceux. Ben, à vrai dire, je pense que c'est une belle... tu sais, comme les astres se sont alignés parce que j'arrive dans le domaine, dans un mouvement tellement mouvementé. C'est tellement un domaine actuellement qui est chamboulé tant au niveau des types de motorisation qu'on a, les types de véhicules qu'on a, les transports en commun, la mobilité urbaine qui est revue aussi, tu sais, à travers le monde. Il ne faut pas penser que c'est un problème nord-américain seulement. Là, c'est littéralement à travers le globe qu'on se pose des questions maintenant là-dessus. Et c'est des questions qu'on se pose constamment. C'est tellement polarisant aussi le domaine automobile maintenant, je pense, plus que jamais. Comme une époque où c'était « moi j'aime les GM, moi j'aime les Ford, okay, mais vous aimez tout le monde les voitures. » Là, c'est plus tant juste ça. Là. C'est, oui, il y a des gens qui aiment les voitures, des gens qui sont contre les voitures, des gens qui sont mettent de l'eau, un peu de l'eau dans leur vin, qui sont pour les deux, mais qui sont aussi pour le développement des infrastructures. Fait que tu vois qu'il y a vraiment une espèce de tourbillon d'opinions qui circule actuellement. Ça devient dur de se tracer une ligne vers où on s'en va. Il y a plusieurs raisons à travers ça aussi. C'est que tu ne veux pas le développement du transport en commun. Il y a plein de promesses qu'on ne voit pas. Ça devient dur aussi, même pour nous, quand on en jase entre nous autres, ça devient dur de se dire où c'est qu'on s'en va réellement. Parce que tous les fois qu'on entend quelque chose, on prend position. Tu sais, hey, nous autres, on trouve que ça amène quelque chose d'intéressant dans l'environnement de la mobilité. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'automobile, mais au bout de la ligne, je suis très heureux aussi si on développe de nouveaux types de mobilité. Pourquoi pas, tu sais? Si c'est pour trouver une nouvelle manière d'alléger le fardeau des routes, d'alléger le trafic, ou même juste d'alléger la manière que les gens puissent aller travailler, puis le stress que ça a de posséder une voiture... Tant mieux. De l'autre bord, moi, je veux continuer de pouvoir en posséder aussi, puis j'espère que l'équilibre va se trouver là-dedans.
Ouais. Moi, j'exclus deux types de personnes dans mon entourage personnel. Ceux qui sont contre les voitures puis ceux qui sont contre le transport en commun.
Oui, mais c'est deux extrêmes, tant qu'à moi.
C'est ça. J'ai vu un sondage pan-canadien qui m'a fait plaisir. T'sais, c'est 97 % des Canadiens qui sont pro-transport en commun, donc qui sont pour le transport en commun. Puis, je veux dire, on en a besoin du transport 100%. En commun. Maintenant, à quel prix? C'est là où, à un certain moment, moi, je peux décrocher, mais des gens qui cessent de penser en disant « Non, moi, je veux plus de taux dans notre société » ou « Moi, je veux plus de transport en commun dans notre société. » Tu peux-tu vraiment jaser avec eux autres, Sam?
Non.
Je pense pas.
Hein? Non, il n'y a rien à faire. Puis, tu sais, rendu là aussi, il faut se dire on veut avancer en tant que société maintenant.
Exact.
Puis, je pense que l'évolution vient aussi de trouver de l'innovation.
Oui.
Puis, l'innovation, ça peut passer assurément par du transport en commun de meilleure qualité. Ça, c'est clair et net.
Oui.
Puis, c'est pas vrai que tout le monde a besoin d'une voiture et que tout le monde peut avoir une voiture non plus. Fait qu'il faut penser à différents types de transport et de mobilité, encore une fois. Fait que Moi, je te rejoins énormément là-dessus. T'sais, moi, je pense que j'aime pas les deux extrêmes, justement. Ouais. Il y a un équilibre à avoir dans tout ça.
Mais de par nos jobs, on n'a pas le choix de côtoyer des gens qui sont parfois dans les extrêmes. Puis des fois, tu te dis, comment ça que ces gens-là, on les entend plus dans les médias? T'sais? Parce que justement, ils ont des positions extrémistes. Puis il y a une position qui est peut-être un peu plus valable selon eux. Ils peuvent même mentir en raison du fait qu'eux, ils détiennent la vertu. T'sais. Ceux qui sont anti-automobiles, il n'y a pas de mensonges qui sont épouvantables pour eux si c'est justement pour enlever le plus d'automobiles sur la route. Mais d'un bord comme de l'autre, ces gens-là, je jase pas vraiment avec eux, très honnêtement. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est les technologies qui avancent dans le merveilleux monde de l'automobile. C'est des technologies qui font en sorte que c'est de moins en moins polluant. Tu sais.
Oui.
Des moteurs qui consomment de moins en moins d'essence, ça me parle beaucoup de plus en plus.
Sur le portefeuille aussi, on est content sur nos finances personnelles, mais on est aussi content pour l'environnement, surtout là. Je pense que c'est important de faire des progrès là-dedans. C'est très important.
Des moteurs hybrides, si c'est possible pour vous d'en avoir un. Moi, je vous salue. Ça va être probablement mon prochain achat, un moteur hybride. Ceux qui sont 100% électriques, puis ça leur convient, 100% électrique, puis ils peuvent avoir un réseau de distribution d'électricité qui va leur plaire. C'est bien correct. Ceux qui se disent, non, moi, j'aime bien mieux ces véhicules-là à essence, mais l'essence synthétique m'intéresse de plus en plus. Ça va-t-il arriver à un moment donné? L'hydrogène. Bon, il y en a qui me parlent encore d'hydrogène en 2024. Il y a de ça quelques années, on avait mis une pompe à hydrogène à Québec.
Elle est encore là. Oui.
Elle ne doit plus servir à grand-chose. Moi, j'ai un de mes chums, une bonne connaissance, qui est un... qui n'est pas le meilleur power forward de l'histoire, qui est un chroniqueur automobile, qui a eu un véhicule à hydrogène. Puis que ça y a pris une couple de mois à s'en débarrasser.
Oui, c'est pas facile.
C'est qui je parle?
Oui.
C'est le monsieur qui a commandé comme une petite affiche pour le Salon de l'Auto de Québec, puis il a reçu comme l'équivalent d'un écran de cinéma là, avec sa face. On salue mon chum Dan Boudreau, que j'adore. Mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les innovations dans le monde de l'automobile. Puis j'ai juste hâte de voir ça va ressembler à quoi, tu sais, 2050. Oui, il va y avoir du transport en commun. Il va-t-il y avoir des tramways ou peut-être autre chose? Il va-t-il y avoir encore des autobus? Certainement. Mais pour ce qui est des automobiles, ça va ressembler à quoi le char de 2050?
Ben oui, puis moi, je compare ça un peu à, tu sais, les gens pensaient qu'en 2000, on allait avoir des voitures volantes, là. Tu sais, on a eu un bout de temps, ce
Back
qu'on croyait.
Future.
Ben oui, tu sais, puis on a tellement cru longtemps, justement, que l'automobile, un jour, allait être des petites voitures individuelles qui allaient voler sur un réseau, là, des routes dans les airs, tu sais, puis on n'est pas là, mais...
Ouais. Le cinquième élément avec Bruce Willis, as-tu déjà vu ce film-là?
Non, jamais vu ce film-là.
Il vole, en fait, à l'horizontale, puis il vole à la verticale, puis les routes sont aussi à l'horizontale.
Et à la verticale.
T'écouteras ça, c'est complètement capoté.
Ouais, mais c'est le fun des fois de voir un peu la créativité de où est-ce qu'on peut percevoir la mobilité. Là, dans...
ouais.
Fait que 2050, pour l'instant, c'est dur de le tracer. Mais clairement, chose qui est assurée, c'est qu'actuellement, dans ce qu'on vit comme perturbation dans le domaine, dans le marché, dans les nouveautés qu'on voit, les innovations, comme tu parlais, on ne sera pas dans le statu quo. C'est sûr qu'on ne va pas arriver en 2050 exactement dans la formule qu'on a actuellement. Il va y avoir eu beaucoup de changements d'ici là. Le type de véhicule qu'on va posséder, le type de transport en commun qu'on aura accès maintenant aussi, ça va avoir énormément évolué. Ça, c'est garanti. Ça va ressembler à quoi? On va se laisser encore quelques années pour le savoir. C'est dur pour moi, tu sais, des gens qui me demandent, penses-tu que 2035, là, ça va être fait officiellement, les chars électriques? On va-tu vraiment tout avoir des chars électriques en 2035 dans les véhicules neufs? Bien, tu sais, jusqu'à présent, c'est ce qui est annoncé. Puis si je regarde le marché bouger, puis je regarde les enjeux des constructeurs automobiles qui ont avec les voitures électriques, mais en même temps, l'énorme quantité d'argent qui a été investi là-dedans pour continuer à le développer, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de choix de véhicules électriques dans quelques années là, sur le marché. Là. Chaque mois, on parle d'un lancement d'une nouvelle voiture, d'un nouveau segment, d'un nouveau VUS, d'une nouvelle camionnette électrique. On attend toujours des nouveaux produits qui s'en viennent. Puis maintenant, il va en avoir pas mal là, dans le portefeuille. Là. Il va commencer à en avoir sérieusement beaucoup. Puis là, on est encore à 11 ans de la date d'échéance. Là.
Moi, je ne suis pas un futurologue, là, mais quand tu as la chance d'entendre un futurologue sur ce dossier-là, il parle des matériaux. Matériaux qui vont être de plus en plus difficiles à trouver dans 100 ans.
Ouais.
Donc là, oui, OK, le véhicule à essence, là, le pétrole, tout ça, il nous reste encore un peu de réserve de pétrole. Oh, les batteries, ça prend des matériaux différents. Faut aller creuser tout ça.
Faut trouver des nouvelles sortes de batteries pour compenser ça. Là.
C'est ça. Mm-hmm. On peut-tu les réutiliser, ces batteries-là? Des fois oui, des fois non. Ouais. Pas tout le temps. Puis le futurologue dit ça va être un mélange d'à peu près n'importe quoi en 100 ans. C'est assez facile de dire ça.
Ah oh, oui, ben
mais
oui.
Je suis d'accord avec
ben
lui.
Ben oui, ça va ressembler à ça. Puis tu sais... 2035, ça arrive vite. On sait qu'il y a des pays qui ont décidé de retarder, il y a des pays qui ont décidé de bouger un peu. Est-ce que ça peut arriver ici? Assurément. Là. Clairement, on peut clairement vivre le même genre de choses. Mais élément qui est certain dans ma tête, c'est que le marché va s'être... Admettons que je remets mon chapeau de journaliste automobile sur ce que moi je couvre puis ce que je vois de l'actualité de l'automobile. L'électrification n'est pas à l'arrêt. Tu sais, des fois, les gens qui aiment ça nous disent « Ouais, ça marche plus les chars électriques, hein, les constructeurs sont mal pris. »
Ben, c'est parce qu'ils ont reculé un peu à un certain moment.
Ils ont reculé dans le sens que les ventes mondiales de voitures aussi ont reculé. Tu sais, le coût de la vie a fait ralentir l'économie, point barre. Tu sais, fait que les gens ont commencé à dépenser moins sur des voitures, puis les voitures coûtent plus cher aussi que jamais. Fait que c'est juste relié aussi à une incertitude économique qui est présente également. C'est pas juste à cause que c'est une voiture électrique. Il y a ça comme point. Le coût de ces voitures-là aussi, il va falloir qu'on trouve une manière de les vendre moins cher, clairement. Puis à un moment donné, je pense qu'on va y arriver. C'est ça le point. C'est que pour l'instant, moi, j'y crois pas. J'aime ça dire je vais le voir quand je vais le croire. Là. Je vais le croire quand je vais le voir, l'inverse. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien beau me faire dire par des constructeurs, on arrive avec une voiture électrique avec 400 km d'autonomie autour de 30 000 $ mais on l'a jamais vu encore. Ouais.
Est-ce qu'on utilise les matériaux à l'intérieur des batteries?
Ça existe. Il y a les entreprises de récupération, même ici au Canada, qui en ont, ouais. Même au Québec, là, qui vont faire de la récupération de batteries. Il y a même Hyundai qui vient de signer une entente avec une entreprise canadienne. Le nom m'échappe, mais ça fait pas longtemps que ça a été annoncé. Là. Peut-être deux semaines là, que Hyundai a vraiment fait une entente officielle sur la récupération de leurs véhicules et leurs batteries avec une entreprise du Canada qui a breveté une technologie pour être capable de vraiment récupérer les matériaux qui sont dans les anciennes batteries. Ils sont capables de rejouer avec... C'est la chimie, là, rendu là, honnêtement, je ne suis pas chimiste non plus, là, mais on est capable de reprendre ce qui est des matières rares, des matières premières qu'on a, pour les remettre en état, un peu comme on fait avec des batteries rechargeables qu'on peut retrouver ailleurs et choses comme ça. Ouais.
Déjà là, il y a des signaux qui sont
absolument, qui sont positifs, absolument.
Okay. C'est encore vrai, des véhicules usagés qui ont 10 ans, qui sont des véhicules électriques, changer une batterie, mettre un 10 000, un 15 000 là-dessus?
Oui, c'est encore vrai que c'est très dispendieux de changer une batterie là, d'une voiture, là, clairement. Ça n'a pas changé. C'est pas non plus tout le monde qui peut faire ça. C'est quand même compliqué comme manipulation. Il y a des formations. D'ailleurs, CA Québec donne des formations à plusieurs garages automobiles par rapport à la manipulation des batteries. Puis même des garages du coin de la rue là, qui pourraient avoir accès à des formations comme ça s'ils font la demande. Parce que ça prend des installations qui peuvent répondre à ce genre de manipulation-là. C'est des produits chimiques justement avec lesquels on joue. Puis il y a quand même un risque pour la sécurité des travailleurs là, qui vont jouer avec les voitures électriques. Mais oui, ça se fait de remplacer encore un plancher de batterie. Souvent, je dis les planchers parce que les batteries sont au centre du véhicule, souvent dans le plancher. C'est régulièrement même qu'on les voit. C'est la distribution du poids, là, fait qu'on met un poids neutre dans le centre du véhicule. Puis c'est pour le confort de roulement puis l'efficacité aussi énergétique qu'on va en retirer. Mais oui, ça coûte encore cher aujourd'hui de changer ça. Il n'y a pas assez de pièces en circulation. Il n'y a pas non plus un distributeur seconde main qui est arrivé avec une solution miracle là, qui fait en sorte que ça coûte 400-500$ changer son plancher de batterie. Là, ça coûte encore extrêmement cher.
Un jour, ça viendra, mais ça doit faire mal au portefeuille. Là. Tu vois, je suis allé changer mes pneus. Tu vas être fier de moi. Je suis allé au garage. Mes pneus ressemblaient un peu à des pneus de F1.
OK. Très dangereux.
Ben, c'est la fin de l'été. Hein. C'est,
oui, il
c'est
était ça. Dû.
C'était des pneus. Moi, c'est des pneus 4 saisons qui étaient homologués.
Oui, fait que t'es roulé-tu à l'année?
Puis j'ai roulé à l'année. OK. Puis là, j'ai regardé ça cet été. Je me suis dit, bon, ben ça, c'est pas mal la dernière saison.
On est arrivé à la fin, là.
Fait qu'hier, j'étais arrivé au garage. Puis mon rendez-vous était pris. J'avais donné mes dimensions de pneus, 1900$.
Oui.
Pour 4 pneus.
Oui.
J'ai un Wrangler. OK.
J'ai des gros pneus quand même. Là.
Puis ça me prend des pneus qui sont quand même assez efficaces pour ce type de véhicule-là. Puis le gars me dit, c'est supposé d'être des experts, mais il me dit, ah, je te vendrai pas ceux-là. Je regardais, hey, 2300$, c'est cher ces pneus-là. Il dit, non, mais je te vendrai pas ceux-là avec ceux-là. Là, ça va trop balloter avec ton Wrangler, tout ça. Fait que je vais te vendre ceux-là. Ah, je vois qu'ils sont moins chers. Ah, t'embarques un peu plus dans mon range de prix, même si c'est très cher. Puis je suis arrivé sur Route de la Bravo hier. Mon char, gauche-droite.
Ah oui, ça allait pas bien.
J'ai embarqué dans les roulières.
Ah, c'est ça.
Mais c'est ça, j'ai changé mes pneus.
T'es-tu content?
Je suis très content parce que c'est extrêmement sécuritaire pour l'hiver, puis mes enfants vont être en sécurité. Mais
tu devais sentir sa conduite un peu, hein? Tu devais sentir un peu glissant? Ou...
Pas tant.
Non, OK, non, ça allait bien encore.
Avec un Wrangler, je dépasse rarement 80 km/h ou 90 km/h.
Parce que c'est pas le fun.
Non, c'est pas
agréable.
C'est pas vraiment le fun. C'est juste que mes enfants auront des moins gros cadeaux de Noël cette année.
Vous êtes avertis, les enfants.
Mais à part ça, tout est beau. Pourquoi je te parlais de la fameuse date de 2035? Parce que le gouvernement du Québec a décidé que ça allait être 2035, interdiction totale de vente de véhicules à essence sur le territoire. Eux appellent ça des véhicules thermiques. Puis le Parti libéral du Québec, entre autres, le ministre, pas le ministre, mais le député que j'aime beaucoup, qui a pris la parole pour dire que lui, il demandait de manière officielle que le parti de la Coalition Avenir Québec revienne sur sa décision de 2035. C'est assez particulier qu'on demande au gouvernement de reculer, mais on n'aura pas le choix. Je t'en ai souvent parlé, Sam. T'sais, sur l'île de Montréal, là, si on compte le nombre de véhicules qui sont là, ces gens-là, la nuit, vont vouloir recharger leur véhicule.
Oui.
Ça prend un système électrique qui va être capable de prendre cette charge-là. On parlait de l'île des Sœurs, où les stationnements, c'est complètement fou. C'est des voitures à perte de vue. T'sais, tu te lèveras pas, Sam, à 2-3 heures du matin pour aller changer ton char de place pour qu'un autre puisse recharger son véhicule. Ça arrivera pas. Mais le Parti libéral qui demande au gouvernement actuel de reculer sur le 2035...
Ouais.
Pas sûr que ça arrive, mais qui sait?
Ben, qui sait? Puis, tu sais, en même temps, je trouve ça un peu. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on dirait que je mets plein de titres. Là. Je dis que je suis pas chimiste, je suis pas futurologue, mais je suis pas non plus politologue. Là, mais clairement, ça sent un peu aussi le genre de promesse populaire. Là. Parce qu'en septembre, le Parti libéral du Québec appuyait une motion du gouvernement Legault sur l'interdiction des voitures à moteur thermique. Là. Donc là, un mois plus tard, finalement, on décide de dire que c'est plus ça, puis on veut reculer. Là. Donc c'est un peu drôle un peu, mais c'est suivi aussi de certains sondages. Là. Il y a la firme Synopsis là, qui a fait une recherche là, pour et qui ont indiqué que dans le fond, il y a 54 % des gens qui seraient en désaccord avec l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035. C'est quand même un gros chiffre quand on y pense une seconde, là, 54 %, puis en même temps, c'est pas surprenant actuellement. J'ai encore envie de vous dire que, tu sais, on est encore à 11 ans de la date. Est-ce que la date va reculer? Il y a des quand même bonnes chances. Le gouvernement Legault a aussi dit qu'en 2030, il allait prendre le pouls de la situation pour voir si c'est encore faisable pour 2035. Fait que, tu sais, clairement, le gouvernement s'est laissé une porte ouverte gigantesque pour dire, bien, on vous l'avait déjà dit qu'en 2030, on allait réévaluer la patente pour voir si on allait reculer ou non avec cette date-là. C'est pas joué pour 2035, c'est clair et net.
Ouais, mais as-tu l'impression que le gouvernement qui a choisi ça, le 2035, puis le fédéral avait embarqué là-dedans aussi, ouais. Plein de...
C'est une tendance quand même assez importante mondialement. Là. Oui, ouais. Oui, c'est pas juste nous ici. Là.
Ça a-tu mis une pression positive sur les entreprises, les constructeurs?
Ben, à vrai dire, ça a peut-être motivé ou ça a peut-être fait en sorte que les constructeurs ont décidé de développer d'autres choses que qu'est-ce qu'ils faisaient déjà. T'sais, les constructeurs nous ont servi pendant énormément d'années une recette de gâteau. Là. On changeait le crémage, on mettait des petits bonbons de plus, on mettait une custard aux fraises à l'intérieur ou des choses comme ça. Là. Mais au bout de la ligne, c'était le même gâteau qu'on nous servait avec des on dupliquait le gâteau en plein d'étapes. Là, on a fait, bien là, c'est le temps d'aller faire une nouvelle recette complètement. Vous allez nous faire un pâté chinois. Là. On s'en va ailleurs complètement, puis on se développe une nouvelle recette complètement. Fait que l'idée d'avoir mis cette pression-là sur les constructeurs, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'était le temps un peu qu'on bouge puis qu'on amène des nouvelles innovations dans le domaine automobile. Tu sais, qu'on le veut ou non, le volant environnemental est quand même vraiment une vraie question à se poser. Puis c'est vrai que les voitures électriques, après un certain nombre de kilomètres, sont plus écologiques en circulation. Là. C'est vrai. Ça a été prouvé, encore une fois, par plein d'études qui l'appuient. Là. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté vert de la voiture. Même si vous me dites que l'extraction de la matière première de la batterie n'est pas évidente, même si on se dit que ce n'est pas tout le monde qui a du courant qui est propre, je sais qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont faites. Là. C'est pas plus tard que la semaine dernière, en Angleterre, on a fermé la dernière usine au charbon pour l'énergie. Là. Ils ont remplacé beaucoup d'usines par différents types d'énergie alternatives. Fait que, tu sais, on voit que ça change, qu'on développe l'énergie qu'on utilise aussi. Et c'est vrai que la voiture électrique est une manière de rendre la circulation individuelle plus écologique sur du long terme. Maintenant, ben, comme tu le dis si bien, il y a encore beaucoup d'enjeux d'infrastructure là-dedans. Il y en a énormément sur la recharge, sur ces capacités-là. Il y a plein d'idées aussi là, qui sont amenées là, par rapport à ça. Tu parlais des pics là, de recharge. Je lisais là-dessus il n'y a pas longtemps, mais il y a un projet d'Hydro-Québec qui est justement de dire qu'à un moment donné, bien, ton véhicule est plugué chez vous, bien, on pourrait t'offrir la possibilité de redonner du courant de ton auto à Hydro-Québec, qui eux vont t'en donner un tarif, dans le fond, vont te rembourser le courant, fait que ça va te coûter moins cher sur ta facture d'hydro, puis eux, par ça, ils vont te redonner ta charge quand ils vont avoir une diminution de la demande sur le réseau. C'est comme un genre de partage, c'est comme si les véhicules, dans le fond, ils emmagasinaient des batteries, puis à un moment donné, si on a besoin d'une plus grosse dose d'énergie, puis ouais. Tu as accepté de le faire, on va reprendre du courant de la batterie
ça, c'est sur papier,
dans le réseau.
J'ai entendu cette entrevue-là, je trouvais ça franchement intéressant. Je disais, ah ouais, mais concrètement, là, je regarde ce qui se passe avec Saclic, là, l'informatique et tout ça, c'est pas un super succès. Tu sais, je comprends que sur papier, c'est des idées qui sont formidables. Ton véhicule va être branché, il va déjà être à 100% de sa capacité, puis le gouvernement du Québec désire aller en chercher un 5 à 10%. Ouais. Si tu le désires, ils vont t'envoyer un chèque ou ils vont te faire un crédit à la fin du mois. Je trouve ça pas pire, mais avant qu'on soit rendu là, Sam, ça va être quoi, 2075? On verra jamais ça de notre vivant.
Ben, moi, écoute, au pire, tu dirais que je suis naïf, mais je pense qu'on va le voir de notre vivant, là. Honnêtement, écoute, tu peux dire que je suis naïf, puis
je vais te dire oui si Éric Kerr ne repasse pas aux prochaines élections.
OK, mais écoute, rendu là, c'est les options. Puis, tu sais, moi, je vais te dire de quoi là, par rapport à sa clique, parce que je trouve tellement qu'on descend sa clique, mais moi, je suis un de ceux qui l'utilisent pour la vente personnelle de véhicules régulièrement. J'ai même d'ailleurs remisé mon auto hier sur sa clique.
Hey, ça prend combien de temps? Moi, j'ai payé.
3 secondes.
Oui, je sais. Ben...
Avec le site, quand t'as fait ton compte, ça clique puis tu l'utilises. Moi, honnêtement, au début, ça a eu des bugs. Là. Oui. Mais moi, de maintenant, là, je vends une voiture là, puis j'écris dans l'annonce là, si t'as pas de compte, ça clique, je te vends pas le char. Moi, je fais juste des transactions via sa clique à cette heure. Puis honnêtement, je comprends que il y a eu des ratés, ça a coûté une fortune. Oui. Je suis pas en train de faire de la politique ici, là. Mais je trouve que honnêtement, la plateforme, versus moi qui se levais, qui allais dans une succursale qui part faire une file avec quelqu'un que je connaissais pas, que j'étais dans un environnement que c'était plus ou moins agréable d'être là, que c'était long, que c'était compliqué, puis que j'allais jaser avec quelqu'un une caisse pour essayer de faire quelque chose, puis il manquait le papier, puis là, la signature sur le transfert n'était pas la bonne. Fait que là, il faut recommencer le processus au complet. Honnêtement, là, ça l'a vraiment amélioré ma vie. Là. Moi, dans mes transactions automobile, là, je l'utilise là, régulièrement, puis j'apprécie cette expérience-là. Ma voisine, pas plus tard que voilà un mois, elle a vendu sa voiture, puis elle m'a dit, comment je fais? Tu te fais un compte sa clé.
Ouais.
Tu te crées un compte sa clé. Uh-huh. Tu dis à la personne qui achète ton auto, tu prends un compte sa clé. Puis elle avait la même crainte. Ouais, mais là, ça bug, ces affaires-là, ces comptes-là, ces sites-là, ça marche pas. Je dis, non, ça va mieux. Là.
Ça s'est amélioré.
Ça s'est amélioré pas mal. Là, puis là, elle m'a fait confiance, elle l'a essayé, puis elle m'a réécrit pour me dire merci. Parce que ça a été un stress de moins. La personne est partie chez eux avec la plaque sur le véhicule qui était rendue au nom de la personne. Là. La personne, elle s'en va, tu as cédé ta plaque, puis tu donnes les clés, elle fait le paiement, puis la voiture, elle part ton driveway. Là. Est rendu à l'autre personne déjà. Fait qu'il n'y a plus de risque que la personne se sauve avec ton char. Il n'y a plus de. Moi, honnêtement, là, je mets de. Tu sais, des fois, j'aime ça être positif. Là, puis c'est pour ça que je te dis, je mettais des lunettes roses en pensant qu'un jour, on va le voir de notre vivant. Mais moi, j'ai l'impression que ça va tellement rapidement actuellement, l'électrification. Il y a beaucoup de gens là, qui ont quand même fait le saut vers l'électrique et qui sont très contents. Là. Au Québec, là, il y en a là, vraiment. Oui,
quand je vais à l'épicerie, je les salue. Là. Ils attendent pendant une heure pour leur charge.
Ils sont pas si pires que ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Les gens, ils savent aussi que tu n'es pas obligé de recharger au complet ton véhicule. Hein.
Intéressant. Écouter Netflix à 13h10 l'après-midi.
Non, mais blague à part, l'utilisation d'une voiture électrique, là, on a toujours l'idée qu'une voiture à gaz, tantôt je l'ai faite, mon char était vide, je l'ai foulé, c'est réglé. C'est réglé, j'ai une voiture à gaz, c'est assez simple. Mais une voiture électrique, tu peux aussi juste recharger ce que tu as besoin pour finir ton trajet.
Absolument d'accord.
Puis tu n'es pas obligé de faire une heure et demie d'attente dans un stationnement.
Tu sais, pour avoir essayé des véhicules électriques avec Bernier Auto, on a une tendance à surestimer le kilométrage qu'on fait en une journée.
C'est incroyable comment le monde pense qu'ils font 1000 km par jour.
Moi, je prends le Mustang, le Mustang de Bernier Auto. Ouais. Le Mach-E, ouais, c'est vrai, faut pas que je dise Mustang.
Non, mais c'est le Mustang Mach-E, ouais, c'est juste que pour préciser que c'est le électrique.
Jusqu'à temps que tu croises quelqu'un qui a une vraie Mustang, puis tu dis, hey, t'as-tu vu Mustang électrique?
J'étais allé cet été
où. J'étais
allé au convoi là, de Mustang. Ils ont fait le record au Colisée, là, ici, à Québec, pour les Mustangs. Puis, il y avait des gens qui avaient des stickers sur leur Mustang. Ceci n'est pas une Mustang. Puis, il y avait une photo d'un Mach-E.
J'ai trouvé ça vraiment pas pire. Mais bref, je l'ai essayé. Puis, en jasant avec Stéphane, le propriétaire, je lui ai dit, hey, je vais te donner un véhicule électrique. Je vais essayer de quand même rentrer chez nous. Il dit, ouais, c'est à peu près 300 km. Là,
je t'ai pas assez
ce que tu vas pouvoir faire. Là, je dis, ouais, mais OK. Elle dit, tu pensais-tu aller à Montréal aujourd'hui? Non. Ben, elle dit, tu vas être correct jusqu'à après-demain.
Facile.
OK, zip. Puis je l'ai fait, puis effectivement, je suis revenu, puis j'étais à demi-charge. Là. Fait que, tu sais, on a une tendance à surestimer notre consommation, puis notre réflexe, c'est tout le temps ça. Ouais, mais là, quand je vais à Montréal, je n'aurai pas assez.
Mais tu vas pas à Montréal à chaque semaine. Non, puis tu sais, j'ai des voitures de presse maintenant. Là. Oui. Je fais partie de ces gens-là qui ont accès à des voitures d'essai parce qu'il faut que je n'essaye. Tu
les amènes à la grande allée, tu fais semblant que c'était les chars, mais oui.
Tout le temps. Je mets la musique au fond. Je baisse les fenêtres. Non. Mais tu sais, j'essaie souvent des voitures électriques maintenant aussi. Puis moi, ce que je trouve le plus talent de la voiture électrique actuellement chez nous, c'est que j'ai pas de borne. J'ai pas de borne à la maison, même s'il y a des subventions. Le problème, c'est que la subvention est associée à un numéro de série.
Okay.
Fait que moi, vu que je suis pas propriétaire d'une voiture électrique, j'ai pas accès à la subvention. Fait que ça me coûte quand même assez cher faire installer ça, puis je n'ai pas l'argent pour ça. Fait que pour l'instant, j'ai pas de borne à la maison. Fait que là, moi, qu'est-ce qui est tannant, c'est une fois que j'arrive à Québec, il faut que je cours une borne. Ça tombe bien, à côté de chez nous, il y a un circuit électrique. Mais se charger sur le circuit, mettons, public, quand t'as pas de borne à la maison, ça reste que c'est assez dispendieux à la fin d'une semaine. Là. Ça peut être surprenant à quel point, des fois, il y a des sous qui passent là-dedans. Mais quand je fais mes allers-retours entre Québec et Montréal, là, jusqu'à présent, là, dans tous les véhicules électriques que j'ai essayé, il n'y en a pas un que j'ai eu de la misère à me rendre à Québec. Là. Il n'y en a pas un où j'ai dû arrêter. Je pars pleine de charge de Montréal, puis je me rends à Québec. Là. Il y en a que j'arrive un peu plus serré. Il y en a où que j'arrive, mettons, puis il ne me reste plus un énorme jeu. Il me reste peut-être un 80 ou 100 km d'autonomie, ce qui est encore une fois pas si mal que ça. Puis il y en a plusieurs que j'arrive, puis qu'il me reste 150, 200 km d'autonomie encore de disponible. Il y a une perception sur la voiture électrique aussi qui est malsaine un peu, je pense. Il y a des gens qui aiment ça, haïr la voiture électrique pour l'haïr. Des fois, je voyais un petit garçon qui me disait les Tesla, ça brûle tout le temps. Puis, tu sais, un petit garçon, là, il devait avoir 8-9 ans. Là, j'étais comme toi, ton père, il aime pas les chars électriques. Hein? Non! Mon père, il aime les Dodge. Ben, que j'ai fait bon, OK, voilà. Ben, clairement, il faut faire attention aussi, tu sais, Manny.
Mais il y a des gars de camions qui embarquent dans des sectes, là. La secte Ford, la secte Dodge.
Ouais, puis tu sais, Manny, des fois, j'étais un peu, là, tu sais, le petit garçon, il a le droit d'aimer ce qu'il a envie d'aimer. Puis la voiture électrique, honnêtement, tu sais, pour ceux qui en ont déjà conduit, ils vont être d'accord avec moi, mais c'est agréable à conduire. Puis non, c'est pas une conduite dynamique, c'est pas une voiture de pilote à date. J'ai pas essayé une voiture électrique, sauf une Porsche Taycan Turbo. C'est une voiture électrique de 200 quelques mille dollars.
Là, tu l'as amené sans grand
ça chauffe, là. Ah, ouais, ça, non, mais je l'ai pas de mes mains, là. J'ai fait un tour sur une piste, là, pis c'est un bolide extraordinaire. Mais les voitures électriques, en termes d'accélération puis de confort de roulement, c'est agréable. Là. Pour vrai, là, c'est le fun. Moi, j'aime ça la conduite à une pédale. Là. Tu pèses l'accélérateur, tu lâches l'accélérateur, puis le véhicule s'arrête.
Ouais, ça prend combien de temps avant de t'habituer à cette conduite-là à une pédale?
T'sais, c'est sûr que ça dépend du style de conducteur que vous êtes. Puis il y a surtout plusieurs modes avant d'arriver à la conduite à une pédale. T'sais, tu peux, dans le fond, c'est les modes de régénération de la batterie, là, que les moteurs vont ralentir le véhicule. Puis ces moteurs-là vont amener de l'énergie à la batterie. Dans le fond, c'est comme l'effet de roulement qui va générer du courant pour la batterie. Ça augmente un petit peu plus notre autonomie généralement lorsqu'on fait ça. Plus on va loin dans ces modes de régénération-là, plus on va arriver au mode à une pédale où est-ce que là, on touche pratiquement pas au frein parce que les moteurs sont assez puissants pour freiner le véhicule au complet.
Ça sert à régénérer aussi le véhicule.
Exact. Ça donne de l'énergie à la batterie pour avoir plus d'autonomie. Mais il y a des modes, tu sais, pour se rendre là. Moi, je dis toujours aux gens qui commencent à conduire un véhicule électrique, commencez avec les modes les plus faibles pour commencer, tu sais, niveau 1, 2, 3, mettons, avant d'arriver à la conduite à une pédale. Fait que commencez avec les modes les plus faibles, parce que au début, tu peux même l'enlever littéralement, la régénération. Dans certains modèles, tu peux l'enlever. Fait que quand tu lâches l'accélérateur, ça fait comme un véhicule à essence. Ça va juste continuer à décélérer tranquillement. Le niveau 1, tu vas le sentir un petit peu plus ralentir qu'un véhicule, mettons, régulier. Le niveau 2, c'est comme si tu décompressais avec une voiture manuelle. T'sais, tu changes de vitesse pour ralentir. Là. Fait que ça ressemble un peu à ça comme sentiment. Le niveau 3, tu commences à te dire, OK, là, je sens que ça freine. Puis niveau 1, une pédale, là, en remontant l'accélérateur, dans le fond, à un moment donné, ton cerveau s'habitue au style de conduite du véhicule. Puis tu es capable de voir le char arriver là-bas, puis en lâchant l'accélérateur, d'arrêter parfaitement en arrière du véhicule sans avoir touché au frein. Là. Ça se fait, puis ça se fait bien. Là. Des gens qui ont des voitures électriques, généralement, adorent ça. Tu sais, on pourrait parler de voitures électriques là, encore pendant 2 heures de temps. Là, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ces véhicules-là. Mais au bout de la ligne, il y a beaucoup de méconnaissances et d'incompréhension encore là-dedans. Fait que si je reviens sur notre prémisse sur 2035, tu sais, qu'on parlait de la fin de la vente des véhicules thermiques, je comprends que les résultats soient encore aujourd'hui aussi élevés en désaccord avec cette norme-là. Moi, je suis le premier défendeur à dire que tant et aussi longtemps que les véhicules électriques ne seront pas abordables, ça ne sera pas une vraie solution. Moi, je pense que l'abordabilité des véhicules, ça va être le nerf de la guerre. Parce que, comme tu l'as dit toi-même tantôt, on sous-estime notre niveau de kilomètres qu'on parcourt par jour.
On sous-estime toujours notre...
Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre connaissance de ça avec une voiture électrique rapidement, mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas capable d'arriver dans les bons prix avec un portefeuille réaliste pour la classe moyenne, pour nous autres, là, une voiture qui aurait de l'allure au niveau de l'argent, là, ben j'ai la misère à croire vraiment aussi à cette date-là.
Ah, j'avais dit à ma compagnie d'assurance que je faisais 70 000 kilos par année.
T'es un malade.
Elle m'a dit, ben non, je fais à peu près ça. Là. Je me promène pas mal, les 20 semaines, je monte en bourse, tout ça. Puis finalement, c'était même pas la moitié à la fin de mon année.
Mais non, c'est ça.
Je les ai rappelés. Ça m'a pas donné de crédit. Là, mais
c'est valeur, crème. Pourtant, je pensais que plus tu mettais de kilos, moins ça coûtait plus cher. Plus
ben, ça dépend
cher.
Où t'habites. Là.
OK, ouais.
Moi, je sais pas ce qui se passe dans mon quartier, mais.
Ça brosse.
Il y a une couple de petits bums qui se sont rajoutés. Hey, bon, c'est mon chef de Ragis. Tantôt, je cherchais le nom du député là, qui avait demandé à ce que la coalition Avenir Québec revienne sur sa date de 2035 pour l'interdiction. Des véhicules à essence. Donc, voilà pour M. de Ragis. Sinon, tu me parlais un peu du sondage Synopsis Research Marketing qui est paru. Y a-tu des choses, des éléments qui t'ont marqué dans les résultats?
Ben absolument. À vrai dire, il y a plusieurs éléments qui concrétisent un peu ce qu'on entend Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'opinions sur la voiture électrique à gauche puis à droite. Puis chose qui est certaine, ou bien les voitures en général, ce sondage-là, c'était le fun parce qu'on allait vraiment regarder la perception des automobilistes au Québec, puis on allait voir aussi ce que les gens pensaient des infrastructures, pensaient du prochain véhicule qu'ils allaient acheter. Puis tu sais, il y avait plein d'éléments là-dedans, comme par exemple les pistes cyclables. On entend parler beaucoup des pistes cyclables actuellement. Puis tu sais, dans le sondage, ils posent une question à un moment donné, c'est comme savoir c'est quoi la perception au niveau de la quantité d'argent qui est mis dans le réseau de l'infrastructure québécoise. Est-ce que vous trouvez qu'on met trop, pas assez d'argent ou assez d'argent dans différents paliers, t'sais? Puis les pistes cyclables, il y a 46% des gens qui disent on en met trop d'argent dans les pistes cyclables. Puis de l'autre bord, quand on parle des routes en général, les gens disent à 54% qu'on n'en met pas assez. On met pas assez dans les routes.
Mais la réalité, c'est qu'on met énormément d'argent sur nos routes, mais on ne l'avoue pas, cet argent-là. On ne l'avoue pas passer.
Et c'est peut-être ça le résultat-là.
Puis la loi du plus bas soumissionnaire pour nos routes, je trouve que c'est une loi qui est mal faite. On devrait enlever cette loi-là.
Apprendre de nos erreurs.
Ceux qui contractent les contrats puissent être responsables pendant 5 ans de ce tronçon-là. Mm. Écoute, on te donne un contrat, c'est toi qui fais l'asphaltage de l'autoroute 20 de cette portion-là à ce bout-là, tiens. Puis t'es responsable de ça pendant 5 ans. Ça te va-tu? Ouais, c'est beau, tu signes ici, merci, bonsoir, on s'en jase dans 5 ans.
Ouais.
Mais non, c'est la loi du plus bas soumissionnaire, puis un homme ou une femme d'affaires qui se lance en entreprise veut pas perdre l'argent. Fait qu'elle remporte le contrat, puis elle se dit, on va essayer d'arriver dans notre prix, puis si on est capable de faire un peu plus d'argent, on va le faire. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Là. Je l'ai compté comme 2-3 fois sur les ondes de boulevard, mais je ne l'avais jamais raconté dans Marceau Soir. J'arrive à ma game de hockey, puis il y a un des gars dans la chambre qui dit « Anne, je t'écoutais à midi là, pour ce qui est de la construction de nos routes. Tu as dit à peu près n'importe quoi. » Je dis « Parfait, c'est quoi ton métier, toi? » Puis là, sans vouloir l'identifier, c'est un gars qui est le surveillant du chantier dans telle ou telle situation. Fait qu'il vérifie que tout soit de qualité. Okay.
Que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'accident.
Puis moi, je disais que des fois, avec les années, les gars, ils ont pris des trucs.
Non, mais lui, t'as vu, c'est contrôle qualité.
Peut-être.
OK.
Peut-être.
OK.
Peut-être.
Excuse-moi, je ne voulais pas t'amener là-dedans.
Ouais, il travaille chez Transport Québec puis il est responsable de vérifier certains trucs.
Okay.
Et là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as entendu que j'ai dit à midi que t'as pas aimé? Ben, t'as dit que des fois, il coule l'asphalte puis c'est pas au bon degré. J'ai dit, OK, mais ça peut-tu arriver, tu sais? Ben là, ça peut arriver, mais des fois, on se fait mettre de la pression par le gestionnaire du chantier. Il faut que ça soit fait plus vite parce qu'il y a d'autres choses à faire. Faut qu'on arrive dans le temps. Mmh. Fait que là, j'étais en train de me dire que ce que j'ai dit, finalement, c'était ça. Des fois, vous avez de la pression, faut laisser passer des petites affaires, puis vous n'avez pas le choix, sinon on vous regarde croche. Là, il me dit « Ah ouais, ouais, c'est vrai. La loi du plus bas soumissionnaire, il faudrait l'abolir.
Ouais, ouais.
Puis il faudrait prendre, supposons qu'on a 10 entreprises, on prend les 3 qui sont dans le centre, puis après ça, on retourne en appel d'offres avec ces 3-là, puis celui-là qui remporte est responsable du tronçon pendant 5 ans.
Écoute, je suis d'accord sur une chose claire et nette, là, c'est qu'on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs, ouais. On dirait qu'on répète toujours les mêmes choses, puis des fois, tu vois des travaux qui s'éternisent d'une manière ahurissante, on dirait que ça ne fait juste pas finir.
Ouais.
Puis, tu sais, je vais prendre un exemple, mais sur Laurentien, direction Nord, je ne sais pas si c'est dépassé depuis le mois de mai, mais ils sont en train de refaire un viaduc depuis le mois de mai.
Ouais.
Tu sais, là, on rentre en novembre, là. Demain, c'est l'Halloween, tu sais, comme ça va vite, là. Puis c'est pas encore fini, là. Puis on a encore retranché les 2 voies, là. Fait que là, le matin, moi, j'habite dans le secteur. Ce matin, je descendais, il y avait une voiture en panne dans une des 2 voies, le trafic qui montait jusqu'au lac Beauport. Puis là, tu te dis, mais on va-tu finir par le finir, à un moment donné, ce viaduc-là, tu sais? Puis je ne suis pas les 2 mains là-dedans, je ne construis pas des viaducs de mes mains. J'imagine que c'est complexe. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça va faire 7 mois. Là. Ouais,
c'est qu'on a l'impression que ça finit plus.
On dirait que ça finit pas jamais.
Ils nous demandent toujours de plus en plus d'argent pour les routes. Puis parce que là, on faisait la comparaison avec les pistes cyclables. C'est vrai qu'une piste cyclable, ça coûte beaucoup moins cher à construire qu'une route. C'est pas le même, c'est pas le même poids qui passe sur ces affaires-là. Mais tu sais, juste revenir sur le dossier avec mon chum là, qui me disait hey, ce que tu as dit ce midi, c'était pas vrai. Tu sais, il m'a raconté aussi qu'on respecte pas toujours les demandes, c'est-à-dire que tu dois ne pas passer sur le tronçon jusqu'à temps que l'asphalte ait eu un tel degré qui soit sécuritaire pour pas que l'asphalte travaille trop au passage d'un gros véhicule.
Et l'eau va m'amener.
Ben, les autres, là, tu sais, beau, pas beau, fait trop chaud, fait trop fret, faut que la route ouvre, fait qu'il l'ouvre, puis là, la garantie tombe.
Fait que là, on s'avance avec une route neuve, plus de garantie.
Fait que si on se ramasse avec des roulières, ben qui est responsable? Ben ça va être le ministère des Transports. C'est eux qui ont décidé de le rouvrir alors que nous autres, on leur disait « Ouais, c'est parce que la qualité de l'asphalte fait en sorte qu'il faut qu'elle soit à tel, tel, tel degré avant de la rouvrir. Il faut que tu attendes un certain temps. Mm. » La matière aussi qui est en dessous, il y en a qui tentent à couper des fois là, pour la matière. Il me parle du grenat et tout ça. Je ne saurais pas te dire exactement les mots bien précis, mais oui, il y a des problématiques. Puis la loi du plus bas soumissionnaire nous nuit. Puis s'il y a bien quelque chose que je déteste dans le monde, là, c'est les gens qui font toujours la même chose en espérant un résultat différent. Il y en a un plus intelligent que moi qui disait que c'était de la folie. Ben nous autres, notre folie, on la fait et on la refait constamment.
Ah oui, on est comme toujours dans ce loop-là parce que, tu sais, dans le sondage qu'on parle depuis tantôt, là, on parle de l'état du réseau routier aussi dans le sondage, puis on demande aux gens comment ils sont satisfaits. Est-ce que les Québécois sont satisfaits de l'état du réseau routier? Puis il y a 63% des gens qui sont insatisfaits de l'état du réseau routier. Tu sais, fait quand tu parles de. Tu sais, quand je te dis, on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs, mais tu sais, quand tu as 63% de la population qui dit ouvertement on n'est pas satisfait, on est insatisfait de l'état du réseau routier, puis qu'on met autant d'argent dans le réseau routier, peut-être qu'on est mieux de prendre plus notre temps. Tu sais, je viens de dire que je trouvais ça long 7 mois là, pour faire le viaduc, mais peut-être que c'est ça que ça prend comme temps à faire un viaduc. Là. Je le sais pas. Là. J'aurais voulu me le faire dire peut-être que ça prenait 7 mois parce qu'on dirait que mentalement, je me serais préparé à ça. Là. Mais tu sais, si ça prend ce temps-là pour qu'après ça, il soit solide, le viaduc, je vais être content. Mais le problème, c'est que si après ça, on le réouvre, puis qu'il commence à avoir des roulières après 3 semaines, puis ça fait déjà 7 mois que toute la population du nord de Québec passe par cette autoroute-là, puis qu'ils sont pognés dans une espèce de détour qui n'a pas de bon sens. Pour après ça avoir une route qui est de mauvaise qualité puis qui n'est pas réussi à atteindre l'exigence qu'on s'est mis nous autres en tant que société, bien, c'est plate, c'est décevant, on est insatisfait, on devient fâché après ça, on devient critique. Je pense que ça vaut la peine, comme tu dis, Simon, depuis tantôt, d'arrêter d'aller chercher le moins cher, mais de faire de la bonne qualité une bonne fois.
Ouais.
Tant qu'à faire 7 mois d'attente, là, j'espère qu'il va être solide puis qu'il va être bon pendant longtemps. T'sais, que la route va rester belle puis que j'espère que tant qu'à ça, au moins le résultat final va être écœurant.
T'sais. C'est ça. Ben, tu me parlais du sondage. Souvent, on va mettre la piste cyclable contre la rue.
On met plein de choses. Hein. On met aussi la fluidité automobile, les transports en commun, le stationnement. T'sais, on met plein de choses dans
le fond. On s'entend que c'est deux problèmes complètement différents.
Complètement.
Les pistes cyclables, il doit y en avoir. Les gens doivent continuer à faire du vélo s'ils le désirent. Ce qui est de l'hiver, il y en a qui sont capables de le faire, mais c'est faux de dire que c'est une majorité.
Drôlement, ils disent, dans le sondage, 61% des gens sont satisfaits de l'état des pistes cyclables.
Ouais.
Fait que, on dit à. C'est 31%, mais il y a 46% des gens qui disent qu'on met trop d'argent. Il y a 31% des gens qui sont en accord avec le fait qu'on met trop d'argent. Après ça, quand on regarde les résultats sur les pistes cyclables, maintenant, ben là, ils sont à 61% de satisfaits. Fait qu'on trouve qu'on met trop d'argent, mais en même temps, on est satisfait de l'état qu'on a. C'est paradoxal un peu.
Tout dépend où est-ce que ça a été fait, ce sondage-là. T'sais, ça a-tu été fait à Montréal? Ça a-tu été fait sur le plateau? Dans le plateau, c'est impossible pour un véhicule ou encore un camion de livraison de faire une bonne job dans ces endroits-là parce qu'on a complexifié la vie des automobilistes sur le secteur du plateau. Fait que si tu leur parles des pistes cyclables, eux autres, ils vont être en sacrament. Là, ils détestent ça pour mourir.
Ça a été fait un peu partout dans la région du Québec. On dit dans le sondage de la pondération, c'est que les données ont été pondérées sur la base de l'âge, du sexe, la langue maternelle, la scolarité puis de la région, afin de représenter la population adulte du Québec. C'est 1000 adultes québécois qui ont répondu entre le 24 et le 28 octobre 2024. Donc, on a fait des entrevues quand même assez larges. Puis dans le sondage, c'est le fun parce qu'on fait la distinction entre l'île de Montréal, les régions, Québec aussi. On a mis Québec vraiment séparé également là-dedans. Puis c'est drôle de voir certains résultats qui sont vraiment très différents. Là.
D'une ville à l'autre.
D'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Puis ça dépend aussi du style de question. Mais tu sais, quand on rentrait dans les véhicules, on demandait aux gens est-ce qu'ils sont satisfaits du transport en commun. Mais tu sais, clairement, il y avait beaucoup plus de gens satisfaits dans les grands centres que dans les régions. Mais tu sais, on n'est pas surpris personne de ce résultat-là. Là.
C'est normal. Mais tu parlais de Québec. Moi-même, j'embarque dans ces guerres-là des fois l'hiver. Je suis sur la route n'est pas déneigée, mais j'apprends à radio par un de mes collègues que les pistes cyclables ont été déneigées en premier. Ça me met en sacrament. Je suis sur Pierre-Bertrand, je regarde la piste cyclable, effectivement, elle est déblayée, il n'y a pas un chat sur la piste cyclable, il fait moins 20, c'est tout à fait normal. Puis nous autres, on a de la misère à circuler sur la route. Ça biaise un peu les sondages.
Oui, mais je peux comprendre. En même temps, j'imagine, puis là, j'aimerais ça parler avec quelqu'un qui fait ça, mais j'imagine que c'est moins complexe de déneiger une piste cyclable que de déneiger une route. Tu sais, la petite chenille, là, à part ça, j'arriverais tellement de chauffer ça. Là.
Une chenille?
Tu sais, la petite chenille, là, la petite machine. Là, ouais. Avec les... Et moi, je vois ça des fois sur la route, Marbon, puis moi, Marbon, on arriverait
de faire. Ça a l'air relaxant.
Ça a tellement l'air le fun à chauffer. Là.
Mais c'est relaxant.
Hey, tu as déjà fait un tour de ça?
Non, jamais. Hey, moi j'ai vu un gars passer au travers de la fenêtre. Hey. Col bleu au centre-ville de Québec. T'as déjà vu les stationnements au centre-ville de... Pas les stationnements, mais les trottoirs au centre-ville de Québec, comment ils sont faits. Souvent, si c'est un immeuble à logement, la dernière marche de l'immeuble à logement, c'est un petit muret de béton qui sert de marche.
Ouais.
Fait que des fois, les gars qui sont pas habitués sur les secteurs, ils ne voient pas une neige. Fait qu'ils rentrent
dedans
à 20 km/h. Pauvre, la face dans la fenêtre.
Ouch, hein?
C'est des années 90. Le gars, il s'est relevé, mais il avait la face en sang.
Ah oui, j'ai passé à travers la pare-brise. Hein? Aïe,
hein? Ouch. Ouais, c'était de toute beauté à voir. OK. Hey, Samuel Tremblay-Michaud, pour les gens qui veulent avoir accès à ton podcast que tu as fait avec la belle gang d'RPM, on peut voir ça où?
C'est disponible partout, littéralement. On est sur Spotify, Apple Podcasts. On est sur Amazon Podcast aussi. YouTube, on l'a filmé. C'est filmé sur la chaîne YouTube de RPM. Juste taper le podcast RPM et vous allez le trouver. Il y a plein d'invités cool qui s'en viennent aussi. On a déjà préenregistré quelques émissions.
Tu as commencé avec le grand boss.
Commencé avec le grand boss.
Qui a de plus important que le grand boss après? Il y a
non,
personne.
Ben, non, mais il y en a plein pour vrai. Écoute, on va avoir. Je peux pas tout amener encore en nombre parce qu'il me reste une mini confirmation, mais on va avoir un invité quand même de taille dans la région de Québec. Fait que c'est ça. Puis on va avoir des invités aussi. Tu sais, là, on est mercredi, fait que je peux vous en parler parce que vous êtes à l'écoute. Là, mais demain, c'est Babu qui va être là, animateur à Musique Plus qu'on connaît.
Qui tripe ses chars.
Qui tripe ses chars, qui fait de la drift aussi. Fait que j'ai parlé avec lui, c'est super intéressant. Je parle avec aussi Mélanie Villeneuve, qui est la fille de Gilles Villeneuve. On a fait un beau podcast ensemble. C'était super le fun. Elle était émotive un bout dans le podcast. C'était vraiment beau. C'était vraiment un beau moment qu'on a vécu. Puis on a parlé de plein d'anecdotes de Gilles Villeneuve. On a jasé de ses premières voitures qu'elle a eues en Europe. Elle nous a parlé de sa Golf 16 valves qu'elle avait et qu'elle roulait vraiment très vite avec.
Golf 16 valves?
Ah ouais, c'était cool. C'était vraiment hot. Ah ouais, c'était vraiment cool. Fait qu'elle nous a tout jasé de ça. C'était vraiment le fun. Bref, on a eu des belles conversations. Puis c'est un podcast diversifié. J'espère que vous allez aimer ça. C'est mon petit bébé, là. C'est comme...
Samuel Tremblay-Michaud est avec nous encore pour quelques minutes. On revient.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneras qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 101.
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. Bellemareavocat.ca.
Vous êtes entrepreneur, travailleur autonome à succès ou professionnel incorporé? Votre réalité est bien différente. Votre situation plus complexe mérite l'attention particulière d'un planificateur financier d'expérience qui a de bonnes connaissances fiscales. Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le Matin à Boulevard. Une courte première rencontre avec moi et mon équipe vous fera découvrir sans frais la valeur ajoutée et le côté unique de notre approche créatrice de valeur.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Services financiers, Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
OK, Patricia, si je te parle de synergie, de professionnalisme, d'authenticité, de compétences en immobilier à Québec.
Ben c'est facile, tu parles de mon équipe.
Chez Patricia et son équipe, on s'occupe de tout. On s'occupe de vous, de A
à vente.
Patricia et son équipe.com.
Ça y est, le nouveau Nissan Kicks 2025 est enfin arrivé chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Avec le meilleur espace de chargement de sa catégorie, un look à tout casser et sa traction intégrale intelligente, le nouveau Kicks, c'est un wow assuré. Venez l'essayer et profitez aussi de nos rabais exceptionnels sur les modèles 2024 durant la liquidation totale de Nissan. On vous attend chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan.
Moi, c'est seul et bien accompagné.
Moi, c'est où je veux et quand je veux.
Et moi, surtout, c'est sans frais et sans compromis.
Et vous, comment investissez-vous? Grâce aux plateformes Dysnap de Desjardins Courtage en ligne, investissez comme vous l'entendez avec 0$ de commission sur les transactions sur actions et fonds négociés en bourse. Et profitez d'outils et de formations gratuites pour vous éclairer. Rendez-vous sur Dysnap.com. Certaines conditions s'appliquent.
Pour le temps des fêtes, le Il Teatro du Capitole vous reçoit en grand. Menus spéciaux pour les groupes, brunch de Noël et du Nouvel An et menus exceptionnels pour la soirée du 31 décembre. Dans une ambiance festive ou dans l'un de ses salons privés, réservez sur ilteatro.ca. À la recherche d'une idée originale? Au Mégaparc, nos forfaits corporatifs transformeront vos événements en expériences inoubliables. Parties de Noël, team building ou autre, offrez-vous des moments de plaisir partagés. Le Mégaparc, votre endroit pour un événement réussi. Réservé dès maintenant.
Les journées raccourcissent et le temps des pneus, c'est maintenant chez Kennedy Pneus et Mécanique. Pensez à prendre votre rendez-vous. Obtenez le financement jusqu'à 3 mois sans frais ni intérêt sur tout achat de pneus et réparations mécaniques. Kennedy Pneus et Mécanique.
Faites-nous confiance et roulez en toute sécurité.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercalo.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Institut Diva.
À juger. Prochaine offre.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Bijoux Souvenirs Parti Cella.
À juger un monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Marceau, le soir. 102.1.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, qui fait des beaux podcasts avec Mélanie Villeneuve. Ça faisait longtemps que j'avais entendu ce prénom-là et ce nom de famille-là. Quoi qu'on a vu passer Jacques...
Oui, il avait fait un CD de rap.
...de Gilles dans les dernières années, pas mal.
Il avait fait de la musique, Jacques.
Oui, ça n'a pas été...
Je l'ai parlé avec sa sœur.
Ça n'a pas été un succès. Puis, c'était encore parlé... son frère.
Oui, oui, mais je n'ai parlé avec Mélanie. C'était drôle, un moment drôle.
Ouais. Puis elle, son père, ben c'était Gilles Villeneuve, là. Quand il est décédé, c'était en 80... J'ai 84 en tête. Mais elle avait quel âge?
9 ans.
9 ans.
Oui. Je vais aller voir parce que je pense qu'il est 86. Là,
86?
82.
82.
Oui, 182.
Fait qu'elle, elle avait 9 ans. As-tu encore de la... Elle se souvient-tu de son père pas mal?
Elle se souvient de beaucoup de souvenirs de son père. Puis ça nous a parlé des anecdotes de conduite qu'elle avait avec lui. Puis l'amour que son père avait pour les Ford. Son père aimait bien gros. Gilles aimait beaucoup les Ford.
Ah ouais.
Puis quand il habitait en Europe, il avait fait importer ses camions là-bas. Mais c'est des véhicules que tu n'avais pas, ces routes de l'Europe
tout
à l'époque.
Tout le monde le regardait.
Là. Ah ouais, c'était bizarre. Là, fait qu'elle nous a conté plein d'anecdotes. Des débuts de conduite aussi de son père, là, comment il conduisait un peu des fois cow-boy, même ses routes, puis que les gens s'arrêtaient sur le bord avec des chaises de camping pour le regarder faire des manœuvres dans les rues du Québec. T'sais.
Écoute, il y a une rumeur, puis je sais pas, moi j'ai jamais entendu Guy Lafleur parler de ça, là, mais il y a une rumeur que Gilles Villeneuve puis Guy Lafleur auraient fait un genre de Québec-Montréal en une heure.
Cette rumeur-là persiste. Ah oui, j'ai entendu beaucoup de choses. Écoute, c'est pour ceux qui aiment le pilote automobile, tu sais, Gilles Villeneuve, puis j'ai vraiment trouvé ça fun parce que, tu sais, on dirait que moi-même, à mon âge, j'avais pas nécessairement... tu sais, je connais bien Gilles Villeneuve parce que j'étais un tripeux de voiture, mais j'ai pas grandi avec Gilles Villeneuve. Je l'ai pas vu à la télé, j'étais pas né, je l'ai pas vu. Puis on dirait que j'avais comme un peu cette déconnexion-là. Puis là, ben, on sait qu'il y a un film qui s'en vient sur sa vie aussi, qui est sur la genèse de Gilles Villeneuve, aussi comment que Gilles a fait son parcours pour devenir un pilote de F1. On le voit même pas faire de la F1 dans ce film-là. On va vraiment le voir grandir et évoluer. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Puis sa fille Mélanie, c'est ça, elle est venue vraiment nous en jaser de long en large un peu plus de cette période-là de sa vie où est-ce que lui s'est développé. Parce que là, elle a vraiment retracé beaucoup d'archives. Elle a rencontré plein d'amis de son père. Elle a jasé avec plein de monde dans son entourage. Depuis les 4 dernières années, là, c'est vraiment impliqué majeur là, dans un peu de retracer la genèse de son père. Puis c'est vraiment... Ça a été un podcast que j'ai trouvé là, tellement pertinent, là, comme le fun, comme conversation, intéressant, puis aussi très humain. Elle a été extrêmement généreuse de son temps, premièrement, mais aussi très authentique. Elle a été très vraie. Comme je disais, là, ça a été vraiment un beau moment.
Puis on peut pas faire de parallèle vraiment entre la méthode de conduite de Gilles et la méthode de conduite de Jacques. Jacques, c'était une conduite plus intellectuelle. C'était d'aller chercher des points. C'était tout était calculé. Puis oui, on veut gagner, mais si on arrive deuxième, troisième, au moins, on va avoir accumulé des points. Tandis que l'autre, Gilles, le père, c'était tout ou rien.
C'est
la victoire.
Je
vais m'en aller avec mon casque puis je vais laisser mon char là.
Puis elle nous a conté des manœuvres de pilotage que son père a faites qui étaient hallucinantes. Tu sais, conduire des Grands Prix avec aucune visibilité, des ailerons qu'il avait levés sur certains véhicules qui cachaient sa visibilité, fait qu'il conduisait avec les miroirs de côté, mais il ne voyait pas en avant. Puis il pleuvait, là, puis il est arrivé deuxième quand même. Là. Puis là, elle nous a conté des histoires de même. C'est vraiment... ouais. Écoute, j'aurais pu vous en parler encore pendant une heure et demie. Là. Je vais clairement vous inviter à écouter le podcast le podcast RPM. Mais honnêtement, j'aurais pu jaser avec Mélanie pendant 3 heures. Là.
All right. Hey, on parle d'un véhicule qui... écoute, je l'ai vu passer, là, le Ram RHO 2025. Quel beau véhicule!
C'est un gros camion. Faut aimer ça. Faut aimer les gros camions. Si on aime les grosses camionnettes, ça en est clairement un. Le Ram RHO, pour ceux qui connaissent un peu les Ram et les pick-up, c'est le remplaçant du T-Rex.
C'est-tu 540 chevaux pour de vrai? Là?
Oui, mais c'est à l'air extrême. Mais le RHO, d'ailleurs, c'est pour deux choses. C'est pour le Ram High Output, qui est dans le fond le moteur Hurricane 6 cylindres qu'on a à l'intérieur. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, qui est double turbo compressé.
Okay.
C'est un moteur qu'on retrouve dans d'autres Ram 1500, dont le Limited, qui va avoir exactement le même moteur à l'intérieur. Ce moteur-là, dans le fond, son objectif, c'est qu'il est comme à plus haute vélocité d'air à l'entrée et à la sortie également du véhicule. Donc, avec le système d'échappement qu'on a, ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir justement jusqu'à 540 chevaux puis 521 livres-pieds de couple qui sont disponibles avec le véhicule. Oui, quand même, wow, parce que ça fait un 0-100 en 4,6 secondes pour un camion de 8300 kg. C'est assez impressionnant.
Mais qui s'amuse à faire du 0-100 en 4 secondes avec un truc de main?
Du monde qui sont prêts à payer 115 000 pour.
Ouais. Je vois des 5 piastres sortir à chaque fois en arrière.
oui, non. Ouais, mais quand tu payes 115 000 pour, j'imagine que ça te dérange moins. Là, moi, je l'ai essayé pendant une journée. On est allé sur les pistes de Détroit. Ouais. Il y a une piste là, qui a été aménagée par Ram. J'ai fait des jumps avec le véhicule. Mais j'ai littéralement levé dans les heures, là, comme pour de vrai. Là, ça a été une expérience assez rigolote, surtout que j'ai embarqué avec l'ingénieur puis, qui a travaillé sur le camion. Puis il me disait, hey, passe dans tel secteur, puis vas-y, là, tu peux y en donner. T'sais. Puis, je suis comme, OK, là, mais tu sais, j'en donnais. Mais je me disais, là, je veux pas qu'ils pensent que je suis un fou. Là, fait que, je faisais attention, là, je roulais vite, mais pas trop dans les chemins. T'sais. Puis il m'a dit, non, tu peux vraiment y en donner. Bon, ben, là, ça fait 2 fois. Là. Fait que là, j'étais allé au fond. T'sais, là, j'ai commencé à me dire, t'es en quête là, je vais l'essayer pour vrai, puis ouais. je vais en profiter. Puis écoute, je t'ai fait des bonnes glisses avec, j'ai rentré des bonnes bosses. Ça a été là, un essai très agréable. Puis à un moment donné, l'ingénieur parlait plus. Fait que là, je me suis dit, bon, clairement, j'ai atteint le niveau qu'il fallait. T'sais. Puis il était comme, yes, encore, j'en veux d'autres.
C'est les ingénieurs qui vous accompagnent là-dedans?
Ben, pas tout le temps, mais dans ce cas-ci, oui, là, c'est vraiment les ingénieurs qui ont travaillé sur le système de suspension qu'il y avait sur le véhicule. Puis c'est pour ça qu'on faisait des jumps, justement, c'était pour nous prouver que tu peux pogner de l'air avec ce camion-là, puis il va atterrir.
Puis lui, il faisait ça de toutes ses journées.
Oui, c'est ça. Lui, c'était ça, ça paye aujourd'hui.
Imagines-tu le lendemain quand il se réveille?
Mal au cœur, sûrement, puis le dos cassé. Malgré qu'on a les bains massages là-dedans, là, t'as les bains massages, puis il est ventilé, puis tout. Mais tu sais, encore une fois, pour les gens qui. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est nécessaire comme véhicule? Pas du tout. Là,
ben, si tu travailles avec, oui.
Non, mais ça remorque moins. Là, dans le sens que vu que tu as une suspension faite pour la route, tu as moins de capacité de charge utile, tu as moins de capacité de remorquage. Honnêtement, c'est un peu ridicule. En vous puis moi, là, c'est surtout un exercice pour que Ram montre un peu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais en termes de nécessité, tantôt, on parlait de transport en commun puis de véhicule électrique. Là, on n'est pas là. C'est un camion d'ailleurs. 88 pouces de large, 5,7 pieds de boîte qu'on a en arrière. C'est pas une grosse boîte, mais malgré tout, c'est quand même assez efficace quand même, mais tu sais, c'est surtout pour montrer un peu l'excès de où on peut se rendre. Chose que je m'ennuie par contre, c'est qu'on a déjà connu, je sais pas si t'en souviens, du T-Rex qu'on
mais
avait.
Oui, bon, ben, oui.
Là, c'est le RHO, je disais, pour Ram High Output, mais aussi pour Rhino. Pour rhinocéros, ils aiment ça, les noms d'animaux, eux autres. Là. Fait qu'ils ont mis des petits stickers de rhinocéros à l'intérieur un peu partout. Puis là, ben, ils remplacent le T-Rex. Mais le T-Rex, là, c'était un V8 suralimenté qu'on avait là-dedans. Là. C'était 702 chevaux.
Ah oui, c'est un cheval.
C'était une autre affaire. Ah, là, ouais. Puis là, lui, il se vend le même prix, mais avec un moteur un petit peu moins puissant, puis un petit peu plus civilisé. Je l'ai trouvé un peu plus civilisé dans son ensemble de conduite, son freinage, la suspension, la direction et compagnie, mais moins brutal et animal que le T-Rex. Fait que ceux qui sont à la recherche d'un sifflement agressant, d'un supercharger, moi, j'aimais tellement le son de ce V8-là. Là. C'était extraordinaire.
Ouais.
Le T-Rex est encore disponible cette année, sinon l'année prochaine, on tombe avec ce RHO-là.
On s'en sert que c'est 16 litres au 100.
16 litres, écoute, j'ai roulé 19,2, je pense, de moyenne. Là,
19,2, mais là, c'est parce que tu l'essayais un peu.
Ouais, mais écoute, moi, par contre, l'essai que j'ai fait, c'est puis c'était pas avec le même véhicule que j'avais essayé le circuit là, de piste que je faisais avec les jobs et compagnie. Là.
Ouais.
C'était pas avec le véhicule que j'ai pris en photo qui est dans mon article sur le rpmweb.ca. C'est lui, j'ai pris sa route, là. Lui, je l'ai conduit sur la route, puis je l'ai conduit normalement. J'ai pesé, oui, là, tu sais, je l'ai essayé pour voir comment ça roulait quand même comme véhicule. Mais, tu sais, 19,2 de litre au 100, c'est énorme pareil. Là. Ça reste une bonne quantité de gaz. Là.
On termine avec ça, Sam. Tu veux me parler de Plymouth?
Ben oui, écoute, j'aime ça parce qu'en plus, ça fait faire un beau lien sur notre sujet qu'on jasait au début.
Ça existe ça encore?
Non. Non. Non, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Mais Plymouth est un peu revenu à la vie durant le SEMA Show à Las Vegas. Le SEMA Show, c'est un show vraiment important maintenant. Je dis show parce que c'est comme ça qu'on nomme ça, là, mais c'est un conventum qui est très important maintenant dans l'univers automobile où est-ce qu'on va aller mettre beaucoup d'innovations de l'avant là-bas. Il y a beaucoup de constructeurs de pièces qui vont être là, des Van Life qui vont y aller aussi pour montrer leur innovation et compagnie. Et Mopar, qui est une division de Stellantis qui fait partie du groupe Chrysler, Dodge et compagnie, va chaque année présenter des véhicules qui sont montés spécialement par Mopar avec des pièces de Chrysler et compagnie. Donc là, on a repris un Plymouth GTX 1967 et on l'a converti en électromode. Donc on a fait un muscle car électrique. C'est pas facile encore chez les passionnés, là. Il y a encore du monde qui était pas très content. Mais je peux comprendre.
Il y a aucun bruit qui sort de là.
Ouais. Tu sais, des fois, je peux comprendre aussi que des fois, il y a des affaires qui sont intouchables. Mais dans tous les cas, visuellement, c'est un méchant beau véhicule.
Ouais.
Ils ont remis ça au goût du jour. On a coupé les ailes à l'arrière. On a refait de la peinture unique. Tout est custom à l'intérieur. Les lumières à l'avant. Les matériaux dans la cabine. On a enlevé la radio centrale pour faire une espèce d'agencement qui est encore plus intéressant, selon moi, au niveau du regard. C'est vraiment un véhicule qui est très cool. Puis on a monté ça purement électrique, fait qu'avec une mécanique qui vient de la nouvelle Dodge Charger EV. Le Dodge Charger revient en version électrique pour 2025. Ça fait déjà beaucoup jaser. Et sachez qu'il y a aussi des motorisations à gaz qui vont être disponibles. Fait que quand même, partez pas trop en peur. Mais le modèle électrique va être équipé d'une batterie. Dans le fond, il y a 4 batteries au lithium-ion à l'intérieur. 73,4 kWh de disponible au niveau de l'énergie. Mopar nous parle d'à peu près 400 km d'autonomie. Là, à voir et à suivre. Là, il n'y a rien d'officiel là-dedans. 335 chevaux quand même, tu sais, pour une voiture de ce gabarit-là. C'est assez intéressant. Alors, on n'a pas plus de chiffres. Ils nous ont pas parlé de la vitesse maximale, mais ils ont dit que ça va au-delà de 160 km/h sans problème.
Mais ça, il y a juste un char comme ça.
Il y en a juste un, là. C'est juste un, mais l'idée de Mopar là-dedans, par contre, c'est de vendre, puis c'est pour ça qu'ils font un show comme ça, puis qu'ils le présentent, c'est qu'ils veulent vendre l'ensemble mécanique électrique pour que les gens puissent le faire eux-mêmes chez eux avec d'autres véhicules. Fait que Mopar fait ça, on a connu ça avec les moteurs Elephant aussi, qui sont des espèces de gros moteurs qu'on offrait en crate. Là. Tu pouvais te commander un moteur littéralement par Mopar, puis eux autres, ils te livraient chez vous une grosse crate avec un moteur dedans que toi, tu fais ce que tu veux avec. Fait que si tu veux le mettre dans un pick-up ou tu veux le mettre dans ton ancien Charger ou ton ancien Challenger, tu peux le faire. Mais là, l'idée, c'est maintenant de proposer aussi tranquillement des kits de conversion électrique, électromode qu'on appelle, c'est ça la tendance, là, pour les véhicules muscle car. En toi et moi, je pense pas qu'ils vont en vendre une grosse quantité tout de suite. Là. Mais l'idée non plus, c'est pas de le faire en grosse quantité maintenant. L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire ce genre de technologie-là. De toute manière, chaque véhicule est unique, fait que ça va être dur pour eux. Puis j'ai eu la rencontre avec les ingénieurs qui disaient on peut pas tracer une ligne claire et nette sur ça va être ça pour toutes les voitures. T'sais, toutes les voitures ont des composantes différentes, ont des physionomies différentes, Fait que ça devient difficile d'avoir le kit, mettons, que tout le monde peut avoir. Mais on amène tranquillement cette mentalité-là dans l'industrie de la voiture muscle car que, ouais, ça se peut qu'à un moment donné, on puisse convertir nos véhicules en voiture électrique.
Intéressant. Samuel Tremblay, Michaud, pour les gens qui veulent te voir, te lire, t'entendre, on te voit où?
Surtout me lire, parce que me voir, on dirait que c'est gênant, là, mais si vous voulez...
Ça vaut pas la peine.
Non, c'est ça, j'ai pas grand-chose à montrer, là, tu sais. Mais vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Samuel Tremblay Michaud, chroniqueur automobile. Je suis actif aussi sur le rpmweb.ca, qui est notre site web chez RPM. Je fais beaucoup d'articles puis beaucoup de vidéos également.
Toujours un plaisir, mon ami. On vous souhaite de passer une belle soirée sur les ondes de boulevard et on se reparle demain. Salut!
Marceau, le soir.
C'est déjà le temps des séries de football du Rouge et Or. Samedi 2 novembre, le Rouge et Or entame sa vraie saison avec la demi-finale québécoise. Avant le match, profitez de l'un des derniers tailgates de l'année. Billets à partir de 12 $ au 418-656-FOOT ou sur rougeetor.ulaval.ca. Québec, on vit ensemble les séries. On a besoin de vous.
Go, Laval, go!
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. Bellemareavocat.ca.
Mettez vos initiales juste ici puis une signature en bas.
Ta-ta-ta, un instant. Avant de signer pour une maison, appelez MRL Courtier Hypothécaire. C'est gratuit, sans obligation et ça vous donne accès à plusieurs institutions financières. MRL Courtier Hypothécaire. Des experts qui connaissent leur affaire.
C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique. Pour remplacer un permis perdu, vous avez même pas besoin de dire
« Remplatio, permis tous ».
Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire
« Rémisio, véhiculo ».
Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Les condos locatifs L'Allier à Lévis sont prêts à vous faire visiter leurs unités modèles malgré la construction qui bat son plein. Notre équipe vous attend au bureau de location, maintenant situé sur la rue Wayman, à quelques pas du projet. Réservez votre visite sur votreallier.com.
En changeant pour Desjardins Assurance, vous pourriez économiser jusqu'à 550 $ en combinant vos assurances auto et habitation.
Ah oui?
Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans.
Ça change quoi?
Bien, imaginez si votre mari jouait au quilles tous les jours depuis 80 ans.
Un 300e abat d'affilée pour Gilles, la machine, la botte!
Ouais, c'est vrai qu'il devait être bon.
Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on assure, et ça, ça rassure. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
C'est pas parce qu'on te parle pas que tu peux pas nous voir. Viens nous rejoindre sur Twitch, sur le BLVD barre en bas FM.
Dites enfin stop à la perte de cheveux avec les Cliniques Viva. Découvrez la technologie PRP, la plus performante sur le marché pour la perte de cheveux. Il stimule la repousse et prévient la chute. Pour un temps limité, recevez 400 $ de rabais sur vos séances. Le traitement PRP est maintenant offert à Saint-Romuald, cliniqueviva.com.
Chez Pièces d'Auto Économique, nous avons tout pour l'entretien de votre véhicule avec plus de 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries et d'alternateurs. Pièces d'auto économique, c'est des grandes marques, des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et maintenant 9 magasins au Québec. Pièceséconomique.com.
Alors que le gouvernement sabre dans la francisation offerte dans les centres d'éducation des adultes, des profs partout au Québec perdent leur emploi et des personnes immigrantes n'ont plus accès à des cours de français.